Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Ah, salut Flo, celui-là il me tenait à cœur, vraiment.
Voilà, salut.
Il avait disparu quelques mois et il a disparu des radars, que ça soit à l'antenne, mais ça soit dans la vie privée aussi, mais il est réapparu. Et voilà, ça me fait plaisir que tu sois mon invité. Salut Flo, ça va?
Salut Jérôme, ça va et toi? Tu ferais mieux de décrocher au téléphone avant de me dire ça quand même.
Ah, écoutez, mon ancien coéquipier de Bastia, franchement, on a passé des moments incroyables. Je t'ai vu éclore comme ça, et puis après, je t'ai lancé et j'ai fait de toi un champion du monde. C'est beau quand même.
Ouais, c'est vrai qu'on a vécu ensemble des moments fabuleux à Bastia. Tu m'as donné quelques bons conseils et on va dire que tu m'as mis sur le bon chemin.
Sur orbite.
Orbite, je sais pas, mais tu m'as mis sur le bon chemin.
Ouais, ben moi je suis tombé de l'orbite, hein, donc. Mais bon, déjà en commençant, parle-nous un peu tes débuts, ton adaptation là au Tigresse. Comment ça se passe?
Ben écoute, je vais débuter ma deuxième saison. L'année dernière, ça a été une saison, on va dire, en dents de scie. Il y a eu du très bon, il y a eu du moins bon, notamment à cause de l'adaptation et j'ai eu quelques pépins physiques. Mmh. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'espère bien évidemment faire mieux cette année. C'est un long projet, j'ai signé 5 ans. Donc voilà, la première saison d'adaptation est passée et là, on va essayer de faire une grosse saison cette année.
T'es heureux là-bas, que ça soit dans ta carrière de sportif, bien sûr, mais aussi dans ta vie privée. Tu regrettes pas ton choix?
Aucun regret. Et vraiment, si j'avais su même et si j'avais eu l'opportunité, j'y serais même allé plus tôt.
Ah ouais?
Je sais que, bon, en France, on se rend pas compte forcément de ce qu'on vit ici. Mais c'est une aventure extraordinaire, que ce soit autant sur le plan sportif que dans la vie de tous les jours. Vraiment, c'est une expérience à faire dans une vie et j'ai aucun regret. On est très très heureux. C'est pas seulement moi, c'est aussi ma famille. C'est une super expérience.
Moi, je t'avoue que, et je pense que tu m'en avais tenu rigueur, d'où le fait que je t'ai pas entendu, on s'est pas parlé depuis un certain temps, mais voilà, chaque chose en son temps. Moi, j'avais été pas dur, mais j'avais pas compris ton choix, en fait. J'avais pas compris ton choix parce que je me suis dit, il va aller s'enfermer dans un championnat qu'il connaît pas.
Avec, à 28 ans, à l'époque.
À 28 ans, il est jeune. Je trouve encore et que tu aurais pu aller dans un grand club européen. Est-ce que tu peux m'expliquer et nous expliquer déjà ton niveau, ton choix, le niveau du championnat parce que nous, on ne le connaît pas. Et pourquoi tu es allé là-bas, tout simplement?
Bon, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est que déjà, j'arrivais en fin de contrat avec l'OM et j'avais un choix à faire, que ce soit sur le sportif et sur la vie privée. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en signant à l'OM, c'était un rêve de tout gamin. Mmh. Donc, j'avais réussi à réaliser mon rêve et j'ai aussi eu la chance de pouvoir devenir champion du monde à l'époque quand j'étais à l'OM. Donc ça, c'est d'abord une chose à prendre en compte. La seconde chose, c'est que j'ai passé 7 ans à l'OM et c'est un club extraordinaire, c'est un club qui est magnifique, mais c'est un club qui est dur.
Qui est usant.
Il y a énormément de pression au quotidien et je t'avoue que je suis passé par des moments difficiles à l'OM, notamment psychologiquement, où ça a été difficile, certaines choses ont été difficiles à...
Mais à cause de quoi, Flo? À cause de quoi ça a été difficile?
Eh ben, c'est une pression qui est constante. C'est un club qui est très souvent, même tout le temps, sur le devant de la scène. Donc, il y a une obligation de résultat. Il y a une pression de la part des personnes comme toi, Monsieur Jérôme Rotten, des médias. Et puis, il y a une pression aussi des supporters. Et tu sais, tu fais souvent l'ascenseur émotionnel. C'est un club qui a une grande passion. Mais quand tu joues bien, une semaine, t'es le meilleur joueur du monde. Et la semaine d'après, t'es le plus nul sur le terrain.
T'es à mettre à la poubelle, ouais.
Voilà, donc tu vois, ça c'est des choses que moi, personnellement...
T'as eu du mal à vivre.
J'ai eu du mal à vivre et ça a duré pendant de longues années. Et par certains moments, j'avais perdu cette passion.
D'accord.
Tu vois,
Donc c'était moi, une sorte de dépression, Flo, en fait.
Oui, on pourra en reparler un peu longuement, mais j'avais consulté un préparateur mental, etc. Et oui, j'ai fait certaines. Il y a eu certaines périodes où c'était des sortes de dépression, ouais. parce que mentalement, bah, t'as le moral dans les chaussettes et la dépression, ça part de là. Mais on y reviendra peut-être une autre fois un peu plus.
Oui, bien sûr, plus longuement. Ouais.
Plus longuement, voilà. Et puis après, voilà. Donc l'objectif pour moi, c'était vraiment parce que moi, j'aime le foot, j'aime la passion. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments qui ont été très compliqués à vivre. À l'OM, ouais. Et ce qui était important pour moi, c'était de retrouver vraiment cette passion, ce football, le football qu'on joue quand on est tout gamin, où on se pose pas de questions, où il n'y a pas de soucis dans le vestiaire, où il y a une ambiance familiale, un peu comme on avait à Bastia, ce que tu as connu à Bastia, Jérôme. Donc c'est aussi quelque chose comme ça qui était vraiment important pour moi à retrouver. Et ici, c'est ce que j'ai retrouvé, c'est-à-dire que le vestiaire ici, c'est une grande famille. On termine l'entraînement, on fait un barbecue sur le terrain tout ensemble. Il y a nos enfants qui viennent à l'entraînement. Nous, on s'entraîne sur une partie du terrain. Eux, ils jouent tous ensemble sous une autre partie. Tu vois,
C'est un autre contexte.
C'est un autre contexte.
Exactement. Ouais.
Et c'est une autre mentalité parce que tu l'as connu, toi aussi, Jérôme. Tu sais que des fois, dans les vestiaires, la mentalité en Europe, c'est chacun pour sa gueule et c'est très compliqué.
Ah oui.
Et moi, je l'ai vécu pas mal d'années à l'OM et ça, j'en voulais plus.
D'accord. Ouais. Donc là, tu retrouves le football qu'on a connu au niveau amateur au départ.
Tout en étant professionnel, avec une structure professionnelle.
Exactement. Et puis après, parce que à l'arrivée, je veux bien ça, le fait de voir les familles, les enfants, de partager ces moments-là, il n'y a pas de souci et je le comprends très bien. Mais à la fois, quand on voit les stades pleins au Mexique, et j'espère que tu vas m'inviter et que j'aurai l'occasion d'aller les voir de mes propres yeux, mais on sent une vraie ferveur, une vraie passion. Donc à l'arrivée, la tension, la pression du haut niveau, tu dois la ressentir aussi.
C'est exactement ça. Et c'est ce que je te disais quand je te parle de passion, c'est la passion du football, mais c'est aussi la passion, le partage avec les supporters, ce qu'on retrouve ici. Ici, tu vas dans tous les stades, il y a une ambiance de folie, les stades, ils sont pleins. Et bien évidemment que je t'invite, quand tu veux, tu es mon invité, tu viens, tu découvriras le championnat, tu verras que c'est pas du tout l'image que tu as. Tu vois, comme quand tu as été déçu du choix que j'ai fait. C'est une aventure à vivre qui est exceptionnelle. Il y a une passion qui est incroyable. Et franchement, c'est quelque chose à voir.
Non, mais ça, je le comprends, Flo. Et c'est bien de l'expliquer. Et bravo de le dire ouvertement comme ça, que tu avais un ras-le-bol, que tu étais au bord de la dépression, que ceci, cela. Chacun voit midi à sa porte. C'est juste que je me dis, pour vivre une expérience, et j'imagine qu'elle est folle, parce que Dédé Gignac est encore là, et ça fait longtemps qu'il est là-bas. Mais je me dis, à 28 ans, quand même, tu avais peut-être possibilité d'aller dans un grand club aussi européen, un peu comme le Milan AC, par exemple. Je ne sais pas s'il y a eu des réels contacts avec. Mais je me dis, à 28 ans, tu aurais pu encore vivre 2-3 ans, comme ça, en Europe, en essayant d'atteindre les sommets européens. Tu as fait avec l'équipe de France en étant champion du monde, mais ce que tu n'as pas fait en club, tu aurais pu essayer de tenter ça en Europe pour après, à 31, 32 ans, partir au Mexique. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu avais besoin vraiment de mettre l'Europe un peu loin de toi, c'est ça, non ?
Il y a eu plusieurs choses dans ma réflexion. La première, c'est que oui, effectivement, j'ai discuté avec des grands clubs européens, notamment le Milan AC, avec qui je devais signer à la base. J'ai discuté avec Maldini, on a échangé et ça devait avancer. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il m'avait fait une proposition au mois de janvier. Après, ça, j'ai fait une contre-proposition et ça a duré, on a perdu du temps. J'ai plus eu trop de nouvelles. Donc, d'accord. Si tu veux, ça n'a pas avancé. J'ai discuté également avec Naples. J'ai discuté aussi avec Berta, le directeur sportif de l'Atlético. Mais tous
avec
ces clubs,
Lyon
en fait,
aussi.
Si tu... J'ai discuté avec Lyon ou avec Juninho. Lyon, c'était pas possible dans le sens où, même si c'est un grand club que je respecte et que j'adore le président Aulas, mais de par la rivalité et de mon parcours avec l'OM, c'était impossible
c'était
pour
pas
moi.
Possible, ouais.
Mais tu vois, tous les clubs comme Naples, Atlético et le Milan AC, ce sont des clubs avec qui j'ai discuté, qui étaient intéressés, mais qui me demandaient de patienter.
Ouais, du temps.
Il y avait un autre point qui était important dans ma réflexion, c'est que moi, quand j'étais petit, j'avais plusieurs rêves. Le premier, c'était de jouer à l'OM en France. En Italie, mon rêve, c'était de jouer au Milan. Et en Espagne, mon rêve, c'était de jouer au Real Madrid. Et quand ça s'est
t'as
pas fait.
Le premier. Avec la... Le premier, tu m'as toujours dit, c'était de jouer avec moi.
Ça, c'était bon. Ça, il l'a réalisé.
Ça, tu l'as réalisé tout de suite. Ça, c'est une chance quand même.
Et tu vois, pour moi, c'est important quand tu joues au foot de jouer pour un club qui te passionne,
et
d'avoir un attachement.
Pourquoi ne pas avoir tout fait pour aller à Milan alors?
Parce que pour les raisons qu'il vient de te dire, c'est qu'il n'avait pas trop de nouvelles.
Oui, mais sauf que ce qui s'est passé, la raison est très claire, c'est qu'ils m'ont fait une proposition au mois de janvier, j'ai fait une contre-proposition. Le Milan, à ce moment-là, ne savait pas s'ils allaient être qualifiés en Ligue des Champions, et ils avaient Canaloglu et Donnarumma qui arrivaient en fin de contrat, ils ne connaissaient pas leur budget pour la saison suivante. Donc en fait, si tu veux, ils me demandaient de patienter. D'accord. Et à un moment donné, j'en ai eu marre de patienter. Les Tigres m'ont offert un projet...
Ambitieux,
ils étaient à fond, ils voulaient absolument me recruter. Et comme je te l'ai dit, des fois, il y a des maillots, je ne sais pas si tu as ressenti les choses comme ça dans ta carrière, Jérôme, mais des fois, il y a des clubs et des maillots avec lesquels tu ressens un truc.
Ouais, ouais.
Et là, j'ai toujours eu ce truc-là avec les Tigres.
Ouais, ouais.
Donc, j'ai dit, feu, j'y vais.
Écoute, tout à ton honneur d'avoir fait ce choix-là, on a compris. Et je regrette mes discours. Du moins,
mais Jérôme, moi, je t'en veux pas.
C'est pas regretté, parce que tu sais comme je suis, je dis ce que je pense. Tu sais que je t'apprécie. Et très honnêtement, j'étais déçu pour toi parce que je te voyais aller encore plus haut. Voilà, je te voyais... Oh, t'as été champion du monde quand même, c'est pas rien. Je te voyais briller en Europe et c'est vrai que Marseille t'a apporté beaucoup, beaucoup de choses et tu as apporté beaucoup à Marseille. Mais par contre, au niveau européen, c'est vrai qu'il y a eu des déceptions. Et j'en avais marre, moi, d'entendre les gens qui disaient « Ouais, mais Flo Thauvin, c'est un bon joueur de Ligue 1. Mais en Coupe d'Europe, c'est pas la peine, il passera pas le cap. » Voilà, bah, tu pourras pas leur faire fermer leur gueule à ces gens-là. Et ça, c'est le seul truc qui me peine parce que je sais que tu as beaucoup de qualité. Voilà. Donc, merci de ta franchise, en tout cas, d'avoir répondu sur ce choix. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, sur l'actualité.
Mais tu sais, Jérôme, ouais, juste pour revenir sur ce point, moi, je t'en veux pas du tout. Chacun a le droit d'avoir son avis. Dans la vie, c'est hyper personnel. Chacun fait ses choix en fonction de ce qu'il veut et de sa famille. Et moi, c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et oui, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Tu vois ce que je veux te dire ?
Exactement.
Après, concernant les gens, comme tu dis, à qui j'ai pas pu fermer leur bouche, moi, je suis très fier de mon parcours. Et tu sais très bien que tu fais jamais l'unanimité. Donc, je vis pas pour les gens. Moi, je vis ma propre vie
et je cherche
mon bonheur. Et c'est ce que j'ai trouvé ici, tu vois.
T'as raison.
Et alors, moi, j'ai juste une question sur ce choix du Mexique. Comment tu sais que c'est un club familial, que tu vas t'y retrouver sur le plan humain? C'est André-Pierre Gignac qui te raconte tout ça?
En fait, si tu veux, j'ai longuement échangé avec André-Pierre Gignac pendant... ça a duré 3 semaines, 1 mois, où on était tous les jours au téléphone ensemble. Mm-hmm. J'ai longuement échangé avec le club. J'avais regardé son documentaire Intérieur Sport, où tu vois vraiment des scènes du quotidien et ses moments conviviaux. Donc, j'avais pas de surprise à ce niveau-là. Tu vois, avant même que j'arrive, j'ai reçu des messages de la part de je ne sais combien de joueurs de l'équipe qui m'attendaient. Et je les connaissais pas, les mecs. Et tu sais très bien, Jérôme, toi, en ayant eu une belle carrière, que quand tu arrives dans un club, les seuls qui t'envoient un message, c'est les mecs que tu connais, avec qui tu as joué par le passé.
Bien sûr.
Des mecs que tu connais pas, ça n'existe pas.
Ouais. C'est sûr qu'il fallait pas s'attendre du président héros qui te félicite de ce choix-là. Hein. Ça, c'est clair. mais en gros, tiens, on parle de lui. C'est un peu de sa faute si t'as pas, de toute façon, il y a eu la fin de l'aventure à Marseille.
Oui, c'est oui et non. C'est lui qui était quand il me restait un an de contrat, président du club. Moi, j'ai longuement poussé pour une prolongation. Le président, il avançait pas sur ce sujet. Mmh. Et en fait, je pense surtout que l'erreur qui a été commise, c'est que quand je sortais de mes très hautes saisons, notamment après la Coupe du Monde, le président, il demandait 80 millions d'euros pour moi. Et c'était beaucoup trop. Beaucoup trop. Je pense que d'ailleurs, cette année-là, j'avais...
Après, on peut pas lui en vouloir, il connaissait pas le foot.
Non, mais je lui en veux pas. Il a essayé de gérer de la meilleure façon possible. Mais tu vois, ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, je sois parti libre, alors que cette année-là, il y a la Roma qui était prêt à mettre 40 millions d'euros sur moi. Et je pense qu'à l'époque, c'était une belle somme d'argent. Tu vois.
Oui. Puis il avait une bonne relation avec la Roma, parce que c'est vrai qu'avec Strootman, ils ont quand même acheté un super joueur. Voilà.
Moi, j'ai une question. Flo, avec ce que tu nous dis, est-ce que tu aurais pu, si le président héros, s'il était pris autrement, etc., prolonger ton contrat, ou est-ce que tu étais quand même à la fin de l'histoire, c'est quand même ce que tu nous as raconté sur tes moments de doute à Marseille, est-ce que quelque chose était fini à Marseille ou est-ce que tu aurais pu quand même prolonger?
Bah en fait, si tu veux, les choses se sont mal déroulées parce que je fais une super saison. L'année d'après, je me blesse, donc je suis blessé un an. Et quand je reviens, il me reste un an de contrat. Et en fait, si tu veux, j'attendais de la part du club du soutien à ce moment-là. Avec ce que j'avais fait à l'OM, et ils savaient ce que je pouvais leur apporter sur le terrain, je pense qu'au moment où je me suis blessé, c'était le moment de s'asseoir et de repartir sur un nouveau contrat et qu'ils m'accordent leur confiance et qu'on reparte ensemble main dans la main. Là, à la place de ça, non, ils m'ont laissé seul, ils m'ont laissé gamberger. Pour que les gens le sachent aussi, à l'époque, j'ai pris un kiné qui venait travailler tous les jours chez moi à ma charge. Le club n'a pas voulu me rembourser. Tout ça a été à mes frais. Je m'en fous, mais je pense qu'à un moment donné, un joueur, si tu le considères dans ton club, il faut l'accompagner dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Mmh. Et c'est pas ce qui a été fait à ce moment-là.
Eh ouais, bah écoute, tu me parlais, on a beaucoup échangé dans cette période aussi, hein, bien sûr. Et moi, je connais le fait et ce que tu viens de dire sur ton choix au Tigresse, c'est-à-dire que retrouver une ambiance familiale avec beaucoup un vestiaire sain, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai connu ça au Paris Saint-Germain. J'ai connu ça aussi à l'époque parce que ces vestiaires où il y a une forte concurrence, où il y a une grosse rivalité, bah ça crée des tensions dans le vestiaire. C'est sûr que ça, à mon avis, ça devait être aussi pénible à vivre pour toi, non ?
Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport de haut niveau, dans le sport collectif. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et, oui. Et moi, à l'OM, ça a duré trop longtemps, tu vois ?
Ouais, il fallait passer à autre chose. Bon, on va...
C'est ça. Alors,
Jean-Louis. Moi, j'ai une question sportivement, oui. Puisqu'on était avec André-Pierre Gignac la semaine dernière.
Ouais, l'excellent André-Pierre Gignac.
Excellent, bien sûr, la légende des Tigresses. Ouais. Il a d'ailleurs annoncé que tu serais la relève des Tigresses, ouais, au 14 parce qu'il a mis la barre très haut. J'ai une question sur l'adaptation. Il nous a dit, pour Flo, c'était aussi difficile, il faut se rendre compte de ce que c'est le Mexique. Tous les 15 jours, tu vas jouer en altitude. Au début, tu n'arrives pas à respirer. Tu peux nous en parler de cette adaptation particulière, du travail qu'il faut faire ?
Oui, c'est vrai. Bon, alors c'est vrai que le championnat, pour développer un peu plus sur le championnat, c'est un championnat qui est compliqué parce que déjà, les Sud-Américains, c'est des mecs qui jouent avec la grinta, qui lâchent jamais rien. Et en plus de ça, tu as tout autour du côté sportif, cette adaptation qui est vraiment compliquée. Comme l'a expliqué la dernière fois Dédé, et je le remercie d'ailleurs pour ses compliments et pour tout ce qu'il fait au quotidien pour moi, parce que heureusement qu'il est là. Tu as des choses qui sont compliquées. La première chose, c'est quand tu vas jouer un match en altitude. Tu peux te retrouver très souvent à aller jouer des matchs à l'extérieur où tu as 1800, 2000, 2500 d'altitude.
Ouais, ouais.
Pour les gens qui ne se rendent pas compte, c'est quelque chose qui est énorme. C'est-à-dire que tu arrives vite à un moment où tu ne peux plus respirer.
C'est plus haut que certaines stations de ski dans les Alpes. Hein.
Eh oui.
Exactement. Donc, répéter les efforts en altitude, c'est très, très, très compliqué. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et ça demande une adaptation. Mmh. Ensuite, tu ajoutes à ça les déplacements où tu vas jouer où tu as un taux d'humidité qui est de 70 à 90%.
Eh ouais.
C'est énorme. Quand tu ajoutes ça, plus tu rajoutes la chaleur. Par exemple, hier, on est allé jouer un match amical à San Antonio. On a joué contre Doria, pour ceux qui se rappellent qui était à l'OM.
Ouais.
On a joué à 19h30, il faisait encore 38 degrés.
Ah ouais. Il a progressé un peu, Doria, ou pas ?
Ouais, c'est un bon joueur, c'est un super joueur. Hein. C'est le patron de la défense dans son club à Santos. Et vraiment, il fait de belles choses.
Hein. Ah ouais, d'accord.
Il fait de belles choses. Mais tu vois, toutes ces choses-là sont à prendre en considération. Et c'est des choses qui ne sont pas simples, qui font que le championnat n'est pas simple comme certains peuvent le penser.
C'est ça. Et puis même toi, pour
comme
un joueur,
peut le penser.
Pour un joueur, non, pas du tout. mais pour un joueur comme toi, qui a quand même un niveau, t'as mis le niveau, la barre haute en Europe, c'est pas si facile que ça d'aller briller quand même au Mexique.
pas du tout. Ouais. Ceux qui pensent ça,
il faut venir voir les matchs pour s'en rendre compte. Bon,
exactement.
Très très bien au niveau de l'adaptation. Maintenant, on va passer sur l'actualité. Les Bleus, parce qu'on en a beaucoup parlé. L'équipe de France. C'est sûr que quand tu es champion du monde, c'est un maillot qui parle. Est-ce que avec ce choix-là, tu as fait une croix sur l'équipe de France?
Non, je pense pas que j'ai fait une croix sur l'équipe de France. La preuve en est que ça n'a pas empêché d'aider, de participer à l'Euro en 2016 tout en étant en Tigre.
Ouais, c'est vrai.
Après, je sais que c'est un peu plus compliqué quand tu joues pas en Europe, mais Didier Deschamps me connaît. J'ai été pendant 3 années en équipe de France à faire tous les rassemblements, donc le coach sait ce que je suis capable de faire. À partir du moment où moi je suis performant dans mon club, le coach sait ce que je suis capable de, ou non d'apporter au groupe, tu vois. Donc je pense pas que sur ce point-là j'ai fait une croix sur l'équipe de France.
Au niveau du, c'est vrai que on t'a pas eu dans RMC depuis ton titre de champion du monde. Même si bon, il faut se replonger il y a 4 ans, mais je pense que ça, ces moments-là, tu les oublies pas. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Tu peux nous dire l'intensité, les émotions, l'adrénaline?
Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, le plus beau moment de ma carrière, parce que je fais une superbe saison cette année-là avec, avec l'OM, ce qui m'a permis de conforter ma place dans le groupe France, même si j'ai eu que très peu de temps de jeu. Mais ça a été une aventure extraordinaire, autant sur le plan sportif, parce que c'était l'aboutissement de toute une carrière, que humain, parce que c'est vivre 2 mois ensemble au quotidien. Et on avait un groupe qui s'entendait à merveille. C'était vraiment, là, pour le coup, une vraie famille. Et je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand tu vis une compétition, tu es un peu dans ta bulle. Tu ne te rends pas forcément trop compte de l'engouement qui se passe en France, parce que premièrement, tu es à l'étranger. Deuxièmement, tu vas à l'entraînement et tu rentres à l'hôtel. Donc tu es vraiment dans ta bulle. Et je pense qu'on a réalisé, quand on a soulevé la coupe, parce qu'on a tous eu des larmes, etc. Mais le moment où on a vraiment réalisé l'impact que ça avait eu et ce qu'on avait fait, c'est le moment où on a mis le pied sur le territoire français. Les gens étaient partout pour nous accueillir. Et je pense que ce qui nous a vraiment touchés, au-delà du fait d'avoir personnellement accompli le plus beau trophée carrière, c'est d'avoir donné du bonheur aux gens. Ouais. Les gens étaient heureux, les gens étaient ensemble, étaient soudés, ils faisaient la fête. Et ça, vraiment, c'est vraiment une fierté d'avoir pu donner autant de bonheur à tous les supporters français.
Est-ce que quand tu as touché le Graal comme ça, champion du monde, je crois que tout gamin, tout passionné de foot, et quand on démarre ce métier-là, on a eu la chance de le faire pendant X années, on rêve tous. C'est le rêve suprême d'être champion du monde. Quand tu touches ce titre-là à 26 ans, c'est ça, tu avais 26 ans à peu près, tu as touché le Graal, tu nous parles derrière de ta relation avec Marseille, limite la dépression, le début de la dépression. Est-ce que ça aussi, ça a facilité dans ton choix d'aller au Tigresse pour aller kiffer, en gros?
Ça, en grande partie, parce que à partir du moment, pour moi, où j'ai eu l'opportunité de réaliser mon rêve, le premier de jouer à l'Olympique de Marseille et le second d'être champion du monde, tu te dis, oui, je pense que maintenant, c'est le moment d'aller kiffer, d'aller prendre du plaisir et de profiter de sa passion, parce que les années, elles passent vite. Je ne sais pas si tu te rends compte, Jérôme, mais aujourd'hui, j'ai 29 ans. Nous, on a joué ensemble, ça fait 11 ans Bastia. Et j'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait 11 ans.
Après, ça marque de jouer avec moi.
Jérôme, il a pris un petit coup quand même à 11 ans, Jérôme.
T'es conseillé, mais par contre, je peux te dire, continue à jouer le plus tard possible, parce que sinon, tu vas finir comme moi, entouré de Jean-Louis Tour, d'Antoine Varnier, des journalistes. Et je peux te dire que là,
ça va, il y a pire quand même.
Il n'y a pas que des mauvaises journées quand même, Jérôme.
Et Flo, et surtout, divorce pas, parce que j'ai fait cette connerie-là, et là, ça te coûte un bras, je peux te dire. Là, tu vas redonner ta Ferrari et ta villa dans le sud.
Ou ne te marie pas, peut-être.
Je vais te dire une chose. Tu sais, on parle souvent de nous, les sportifs, de notre carrière, de nos objectifs, etc. Mais on l'oublie souvent. Derrière derrière chaque homme, il y a une famille.
Oui.
Et moi, entre-temps, il y a eu l'arrivée de mon fils. Et voilà, nous, pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est de, oui, faire une belle carrière, être heureux sportivement, mais ma vie de famille, elle est tout aussi importante. Mmh. Donc, c'est un choix qu'on a fait tous ensemble parce que les gens, ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'une carrière, ça dure 15 ans.
C'est vrai.
15 ans de sa vie.
Ouais.
Mais après, il reste combien de temps à vivre ?
Eh ben,
donc, pour moi,
des...
tu vois, c'est...
Il reste des belles années, Flo. Je suis en plein dedans et je peux te dire que je kiffe avec ma famille aussi et je suis sûr que dans quelques années, et le plus tard possible pour toi, bien sûr, on kiffera tous les deux dans le Sud.
Eh ben avec grand plaisir, mais pour te dire aussi, c'est quelque chose qui était aussi important pour moi à prendre en compte et cette décision familiale fait aussi partie de la réflexion, tu vois.
Alors j'ai une question un peu de journaliste, hein, excusez-moi de vous trouver, mais si j'ai l'impression d'être dans le vestiaire à Bastia, là, ouais, régal.
Florian, je peux pas tout te raconter parce que...
Ah tu me racontes en antenne.
Je l'ai éduqué sur le terrain, mais je l'ai aussi éduqué en dehors.
Ah bon,
Flo. Ah bah oui.
Mais ça on peut raconter à l'antenne.
Mais on peut, Flo, on peut pas dire, c'est interdit au moins de 18 ans, on va...
Exactement.
Bon, tu me raconteras après. Florian, moi j'ai une question. Lionel Charbonnier, qui est membre de la Dream Team, qui est champion du monde lui aussi.
Il ne sait pas qui c'est Lionel Charbonnier.
Alors, non, c'est pour ça que j'explique, c'était troisième gardien en 98. Lui, il estime qu'il n'est pas champion du monde. Il ne se sent pas champion du monde parce qu'il n'a pas joué un match et parce qu'il était troisième gardien. Est-ce que toi, tu te sens champion du monde pleinement? Je dis ça parce que tu as eu peu de temps de jeu pendant la Coupe du Monde, mais peut-être que chacun vit les choses différemment.
Il est rentré
quand
même.
Il est rentré effectivement lors du 8e contre l'Argentine. Comment toi tu sens les choses?
Alors moi je me sens champion du monde absolument à 100%.
Ouais.
Pour la simple et bonne raison que être champion du monde, faire partie d'un groupe, ce n'est pas seulement faire partie de la compétition. C'est-à-dire que c'est un travail depuis plusieurs années.
Oui.
Avant d'être champion du monde, j'ai intégré le groupe France un an avant. J'ai fait part à tous les rassemblements. Et il faut savoir que l'année où on est champion du monde, c'est ma saison la plus aboutie à l'OM. C'est-à-dire que cette saison-là, je fais 26 buts et 18 passes décisives. Donc je faisais partie des joueurs les plus décisifs en Europe. Donc après, quand tu arrives en équipe de France... Il y a des joueurs qui sont plus ou moins forts. À ce moment-là, ce n'était pas possible pour moi d'avoir plus de temps de jeu parce que moi, je n'ai pas honte de le dire, il y avait plus fort que moi à ce moment-là.
Ouais.
Mais je n'ai pas volé ma place dans le groupe France. Mmh. Je n'ai pas volé ma place dans le groupe France et je pense que je l'ai amplement mérité. Au-delà de ça, au-delà d'avoir fait tout ce qui était possible pour moi pour être dans le groupe, il y a aussi ce quotidien auquel on fait part. Parce que,
comme pas que les matchs, en fait.
Maintenant, on parle souvent des 11 joueurs
ou
des 13, 14, ceux qui rentrent. C'est bien, effectivement. Mais il y a aussi les mecs qui sont qui font partie du groupe, qui participent aux entraînements et qui se donnent à 100% et qui sont toujours là dans le bon état d'esprit pour pousser les autres. Mmh. Et ça, faut pas l'oublier. Parce qu'une Coupe du Monde, ça se gagne à 23, ça se gagne pas à 11.
C'était le discours un peu d'Adil Rami qui disait « Moi, voir les défenseurs centraux aussi bons depuis le banc, ça veut dire que je me suis bien donné à l'entraînement pour les pousser aussi. »
Non, mais tu as raison. Et Jean-Louis, moi, pour compléter ce que dit Flo, lui, il l'a vécu, donc c'est plus facile de le dire comme ça. Mais moi, mon ressenti aussi, c'est que tu compares avec Lionel Charbonnier. Mais Lionel, c'est un troisième gardien.
Ouais.
Donc, très, très peu de chances de jouer. Et tu te mets dans ce conditionnement-là quand tu débutes la compétition et tu débutes la préparation. Alors que Flo, il vient de te le dire, il a tout mis en œuvre pour essayer de gratter du temps de jeu. Après, il y a plus fort, il y a du choix du sélectionneur. N'empêche qu'en plus, il est rentré. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec ta réponse dans tous les cas.
Et puis, tu sais, aussi, ça dépend aussi de qui joue à ton poste. Moi, par exemple, c'était Kylian qui jouait à droite.
Ouais.
Aujourd'hui, tu peux être bon autant
aller
que
chercher
tu veux
quand
tu as
quitté.
Non, mais tu vois ce que je veux te dire. À un moment donné, moi, tu sais, j'ai eu des conversations avec Kylian parce qu'on a toujours été super potes. D'ailleurs, ça m'a souvent fait défaut à l'OM avec les supporters et tout. Mais nous, on jouait la même position, mais on était super potes. Je le disais, je serais toujours là pour toi. J'irai toujours dans ton sens. J'irai toujours dans ton sens. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je sais que tu peux apporter plus que moi sur le terrain. Et c'est ça aussi, être un bon coéquipier d'équipe.
Mais de toute façon, c'est pour ça que Didier Deschamps t'a fait confiance. Des fois, il y a tes performances, bien sûr, sur le terrain avec l'Olympique de Marseille, mais il y a aussi ton comportement et comment tu vivais les choses. Didier est très, très pointilleux là-dessus. Il est très regardant. Et la preuve, c'est que tous ces groupes vivent bien en général. Donc ça, c'est sûr que c'était tout bénef pour toi.
Florian, oui, est-ce que tu arrives à suivre les matchs de Marseille? Est-ce que ça a été le cas cette saison? Ou est-ce que à distance,
je regarde tous les matchs?
Ouais.
Tous les matchs de Marseille ou tous les matchs de Ligue 1?
Non, je regarde tous les matchs de Marseille et les belles affiches de Ligue 1.
D'accord. Alors, t'as pensé
quoi
de la saison?
Je rate pas un match de Marseille.
On va voir si t'es d'accord sur l'analyse avec Jérôme.
Non, moi j'ai quand même trouvé que c'était une belle saison, un beau championnat. J'ai adoré la saison de l'OM. Il y a eu des périodes un peu plus compliquées, mais franchement, je salue le travail de Sampaoli, des joueurs et de Longoria, parce que même si j'avais pas de doute à l'époque, ils ont vraiment réalisé une grande saison. Ils ont quand même été deuxième tout au long de la saison, donc ils ont mérité leur place et je suis très content pour le club.
Est-ce que tu suis l'actualité un peu, le recrutement, le départ des joueurs pour anticiper l'année prochaine, parce que tu l'as vécu aussi à Marseille et encore plus à Marseille. Quant à la Ligue des Champions, il y a un parfum particulier, les gens ont envie de rêver, ont envie de voir plus grand. Il faut renforcer le collectif et là ils se sont affaiblis. Qu'est-ce que tu en penses ça, de la structure du club aujourd'hui?
Ça a souvent été le problème lors de ces dernières années, c'est-à-dire que les clubs, notamment l'OM, mettent tout en œuvre pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions, pour essayer d'avoir pour rentrer dans le budget, et la saison d'après c'est souvent compliqué pour se renforcer. Je sais pas trop comment le club va gérer les choses.
Est-ce que toi, par rapport à ton expérience, le fait d'avoir pas été bon collectivement en Ligue des Champions à l'époque, est-ce que tu penses que ça passe par un recrutement de joueurs d'expérience?
Oui, bien évidemment. Après, le problème d'un club comme l'OM, c'est qu'une saison il est en Ligue des Champions, deux ou trois il l'est pas, après il revient. Ça, c'est des projets qui se font sur le long terme. Donc bien évidemment qu'il faut des joueurs d'expérience, parce que il y a peu de joueurs qui ont beaucoup de matchs en Ligue des Champions actuellement dans l'effectif de l'OM, et bien évidemment qu'ils auront besoin d'expérience, parce que sinon ils n'arriveront pas à aller chercher les points et reproduiront ce que nous on a fait les années précédentes. Ça passe par de l'expérience.
Ouais, bien sûr, mais de toute façon ça on en a déjà assez parlé, et surtout dans des clubs comme Marseille. Pour revenir un peu sur ton plan de carrière, est-ce que après le Mexique tu te dis c'est possible de revenir en France jouer en Ligue 1 et peut-être à l'OM?
Alors honnêtement, j'ai pas forcément de plan de carrière. Là, j'ai un contrat qui m'emmène jusqu'à mes 33 ans, mais je pense que je ferai sûrement feeling année après année au fur et à mesure comment je me sens. Pour l'instant, je suis hyper heureux ici au Mexique. Dans ma tête, c'est de rester ici le plus longtemps possible et de reproduire ce qu'a fait André Pierre. Après, on verra. Un retour en France, bien évidemment, que si à un moment donné, il y a une belle opportunité et que je vois les choses bien et que ça m'intéresse, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai en tête.
Okay. Ouais. Merci beaucoup, Flo.
Flo, juste avant de te remercier de l'interview, sache que tu m'as touché en parlant de dépression, parce que c'est bien de se livrer comme ça et de dire les choses, parce que les footballeurs, les sportifs de haut niveau, mais principalement les footballeurs, parce que c'est notre milieu, en général se cachent.
Après, parce qu'on vous apprend aussi à vous mettre dans votre bulle,
oui,
pour vous protéger, pas montrer vos
carapace. La preuve, c'est que sur le coup, Flo, tu n'as rien dit, mais tu as attendu quelques années, du moins quelques mois, pour le dire. Donc ça, c'est tout à ton honneur, et sache que ça m'a touché. Je pense que ça a touché aussi beaucoup d'auditeurs.
Ouais, écoute, c'est la vérité. On pourra, si vous voulez, un jour en discuter un peu plus longuement, mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'un sportif de haut niveau, derrière le sportif de haut niveau, ça reste un être humain. Et il y a des touches, il y a des choses qui touchent. Il y a des joueurs qui sont plus sensibles que d'autres, même si on ne le montre pas forcément sur le terrain. Mais les gens ont tendance à oublier qu'on donne toujours le maximum de nous. et que quand ça se passe pas très bien, c'est pas toujours facile à accepter. Et quand en plus on te marche sur la tête pour mettre au fond, c'est difficile pour le joueur et aussi pour l'entourage de d'assumer toutes ces choses quoi.
Bah écoute Flo, écoute, merci beaucoup en tout cas. Je te souhaite vraiment de tout cœur de réussir comme tu es en train de le faire dans tous les cas. J'ai aucun doute sur ton talent et le fait que tu t'imposes comme Dédé Gignac l'a fait au Tigresse. Et puis j'ai hâte de te revoir, voilà, qu'on participe et qu'on partage des bons moments.
Eh ben écoute, ça a été un plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir. Et Jérôme, quand tu veux, tu es mon invité au Mexique.
T'en fais pas. Le téléphone va sonner dès demain.
Qu'est-ce qui gratte, lui, c'est infernal.
J'attends ton appel.
Allez, je t'envoie. Merci beaucoup.
La bise, merci. Bye.